Alone.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciats et bienvenue dans votre émission Page à Page. Nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur Radio Occitanie. Aujourd'hui, je reçois Progresso Marin. Bonjour.
Bonjour Claire.
Qui va nous parler donc, entre autres, de son dernier recueil de poésie intitulé « Écluse suivie de buée ». Mais dans un premier temps, comme à l'accoutumée, je vais vous donner quelques petites informations autour du livre. Tout d'abord, je vous rappelle que jeudi prochain, notre café de philosophie, l'Esquille, ouvre un débat dont le thème, comme c'est le quatrième jeudi du mois, n'est pas encore connu. Il sera choisi le jour même. Donc je vous rappelle l'adresse de ce café de philosophie à Toulouse, l'Esquille, 63 rue du Thor, au 05 61 23 42 46. Donc c'est jeudi 23 mars, jeudi prochain, à partir de 19h30. La fin du débat est prévue comme d'habitude vers 21h30. C'est animé par notre ami Jean-Philippe Blanchard. Et donc, comme je vous le disais, le sujet sera choisi le jour même parmi les propositions des participants. Et les sujets s'appuient bien sûr, à titre d'exemple, sur des faits d'actualité et de société. Voilà, donc ça c'était la première petite info. Ensuite, au Salon Privat 14 rue des Arts, le vendredi 24 mars à 18h, une rencontre avec Michel Quin pour son dernier livre « L'espoir d'aimer en chemin » édité chez Joël Lesfeld. Alors l'auteur qui est professeur de lettres et de théâtre, l'auteur d'Effroyable Jardin qui a été adapté au théâtre et au cinéma et qui a été traduit dans 18 pays, nous entraîne cette fois-ci dans la mémoire d'un marionnettiste et s'intéresse au bouleversement de la guerre d'Algérie. Donc au Salon Privat vendredi 24 mars 18h, Michel Quin pour cette rencontre autour de son dernier livre. Je continue avec les marchands d'histoire qui seront samedi 25 mars à 11h à la bibliothèque de la Côte Pavée qui se situe 125 avenue Jean Rieu. Donc les réservations, enfin plutôt réservations, oui si on veut, pour prévoir le nombre d'enfants nécessaires. Donc 05 61 54 72 91. C'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit, mais c'est pour les enfants à partir de 7 ans. Donc n'amenez pas vos petits bouts, ils risqueraient de s'ennuyer. Donc il y aura un objet en bois à découvrir au fil du conte raconté par Alain et Marie-France Bell. Les marchands d'histoire, comme vous le rappelez, se terminent au mois de mai après un parcours depuis le mois d'octobre. Donc ils passent de bibliothèque en bibliothèque dans notre jolie ville rose et donc samedi 25 à 11h, ils seront à la bibliothèque de la Côte Pavée. Ensuite, samedi 25 mars à 17h à la librairie Ombre Blanche, vous aurez le plaisir donc de rencontrer Alain Monnier qui est déjà venu à Page à Page pour son dernier livre qui s'appelle Givré, édité chez Flammarion. Donc Ombre Blanche, c'est 50 rue Gambetta. Donc samedi 25 à 17h pour venir écouter ce qu'il a à nous dire sur son dernier livre. Je le recevrai au mois d'avril, Alain Monnier. Et puis je termine donc par une lecture rencontre aussi présentée du livre Écluse suivi de buée de Progresso Marin le mercredi 22 mars à 20h30 à la librairie à juste titre qui se situe 65 rue Gaston Doumergue à Tournefeuille et donc il va nous en parler un peu plus longuement à tout à l'heure.
Page à page, Claire Ambille.
Voilà, donc je me tourne vers mon invité, Progresso. Vous allez nous parler un petit peu de vous. Donc vous étiez professeur de français. Enfin, vous avez été longtemps professeur de français à Toulouse.
Très passionné par ce travail d'éducateur et les rares cheveux, parce que les auditeurs ne me voient pas, mais je suis un peu chauve, les rares cheveux que j'ai sur la tête sont arrachés en ce moment par les propos du ministre Gilles de Robien qui fait des attaques inconsidérées contre la lecture alors que j'ai passé ma vie à défendre ce type d'activité. Et bon, on a vraiment affaire à des cuistres qui détruisent la culture.
Et donc, oui, vous avez enseigné le français, donc en incitant vos jeunes à lire, à pousser la découverte au maximum et à écrire.
Oui, à écrire énormément. J'ai gardé des écrits d'élèves, peut-être les publierai-je un jour. C'est extraordinaire lorsqu'on leur fait confiance et qu'on leur donne les moyens d'écrire ce que les adolescents sont capables d'écrire.
Sur l'adolescence, ils écrivent beaucoup, hein, des poèmes notamment.
Oui. Des poèmes, des récits, et puis ils se livrent. L'écrit est quelque chose qui engage. On a beau tourner, même dans la science-fiction, il y a des éléments à nous qui ressortent.
Tout à fait. Donc vous êtes né à Toulouse, vos parents sont espagnols.
Oui, mais
ils sont venus s'installer après,
C'était des militants de la CNT, anarcho-syndicalistes, et ils sont arrivés. Et d'ailleurs, ils se sont connus à Toulouse.
D'accord.
Ma mère était mariée en Espagne, mais son mari est resté en Espagne.
Ah.
N'était pas franquiste.
Donc ils se sont connus à
Toulouse. Ils se sont connus et puis il était temps de naître parce que pratiquement 9 mois après leur rencontre, je suis né.
Ah, vous êtes vraiment le bébé de cette rencontre. Et donc vous avez d'ailleurs écrit un livre un peu en hommage à votre maman, Dolores, Une vie pour la liberté. Vous avez commencé par ce roman.
À publier. La poésie, même si ça s'est fait d'abord il y a plus de 30 ans, et puis il y a eu un moment de doute, j'ai arrêté, et puis j'ai repris il y a à peu près 25 ans. Et Dolores, oui, ça a été un grand moment, parce que ce livre, certainement, a déclenché quelque chose d'important. Je pense qu'il a changé ma vie, et c'est à la fois, c'est une mémoire entrecroisée, c'est la mémoire de ma mère et c'est la mienne. Et je pense que les lecteurs ont été touchés par cet aspect-là. Il m'a demandé beaucoup de temps.
Et vous avez écrit après, en suivant, vous avez écrit Exil en 2005, donc 3 ans après, parce que bon, Dolores était 2002. Exil en 2005, donc pareil disons que le thème c'est toujours la vie donc des émigrés espagnols.
Oui, là ce qui a été très émouvant, c'est que suite aux nombreuses rencontres que j'ai fait avec Dolores, les exilés m'ont dit mais tu dois parler de nous, tu dois pas t'arrêter. Alors on se sent un peu comme un porte-parole. Alors là j'ai récolté beaucoup de témoignages
et de photos afin de faire un livre
pour transmettre aussi aux jeunes générations.
Tout à fait, pour que ça reste en mémoire. Et puis après, vous avez rencontré donc Jean-Luc Haribaud, qui est l'éditeur de Écluse suivi de Buée, puisqu'il est beaucoup de choses, hein, Jean-Luc, on l'a reçu à Page à Page l'année dernière. Mais il est donc aussi, entre autres, éditeur, donc édition NEB.
Oui.
Et donc, ça lui a plu ce que vous avez écrit.
Oui,
et donc,
vraiment, je le remercie d'avoir, parce que c'était un désir depuis très longtemps, et il a aimé cette écriture. Et il m'a donné ma chance, et il m'a édité, c'est un beau livre.
Parce que c'est difficile de publier
la
poésie.
Oui, c'est un monde un peu particulier, plus on est marginalisé, le lectorat français n'a jamais été important en poésie, et plus on se divise, quoi. Il y a des chapelles, et je suis pas du tout un homme de chapelle, donc il fallait trouver quelqu'un qui lise les textes pour lire les textes, et il a fait ce beau livre blanc avec une belle photo représentant une main qui est une photo personnelle.
Oui, j'aime beaucoup. C'est une photo à vous, d'accord. De Jean-Luc lui-même, d'accord.
Qu'il a fait pour ce bouquin.
Pour ce recueil.
Et puis il donne sa chance à d'autres, Frédéric Martin. C'est très important, voilà.
Oui, c'est bien qu'il y ait des gens comme ça qui apprécient encore la poésie. D'ailleurs, on pourrait citer Pierre Reverdy en disant « La poésie est à la vie, ce que le feu est au bois ». Vous trouvez que c'est sur la 4e de couverture de votre recueil. J'imagine que c'est un choix délibéré d'avoir noté délibéré.
Absolument.
Et qui incarne bien qui représente bien ce que vous pensez sur la poésie.
Oui, parce que c'est contrairement à ce qu'une poésie esthétisante a voulu laisser croire, c'est un travail sur le langage, mais le travail sur le langage pour exprimer la vie, pour mieux la dire. C'est ça qui est important. Hein. C'est pas un jeu gratuit.
C'est pas histoire de faire joli.
Non. C'est pas du tout une histoire de faire joli. C'est véritablement l'expression de nos vies, de la condition humaine, mais travaillée par un langage que l'on tord, je dis à un moment donné, comme un souffleur de verre. mais parce que c'est obligatoire, c'est pour en dire plus, pour essayer d'en dire plus.
Voilà. Pour que ça soit plus représentatif, que ça soit plus compréhensible pour ceux
pour
qui le lisent.
Pour que ça reste.
Pour que ça reste.
Voilà, la poésie et le langage, c'est un peu comme un alcool par rapport au vin, c'est-à-dire que c'est celui où le rapport, pour parler un peu technique, du signifiant et du signifié, comme disent les linguistes, c'est-à-dire de l'apparence du mot et de ce qui véhicule, c'est celui où le rapport est le plus fort. Et Jacobson l'explique bien. Et donc, c'est pour dire mieux les choses. En fait, dans la poésie, la pensée et ce que l'on dit sont étroitement mêlés. C'est-à-dire que l'écriture est pensée. Voilà. Et donc, il faut donc trouver les mots, quoi. Et il faut se creuser pour
Et vous
trouver.
Pensez que chacun de nous, on a cette faculté, quoi, de...
Ah, mais si on a le désir et si on veut, chacun peut écrire. Après, il trouvera les moyens qu'il jugera, lui, adéquats à ce qu'il veut exprimer. Après, ce sera plus ou moins fort, mais ça peu importe. L'important, c'est d'arriver à exprimer ce que l'on veut dire.
Et le fait d'avoir enseigné le français pendant de longues années, vous pensez que ça y a fait quelque chose, donc, cette écriture
bon,
de la poésie?
Oui, peut-être, mais des fois, ça donne des choses inverses. C'est-à-dire qu'on s'englue dans la connaissance d'autres, hein, on connaît bien. Hein. Moi, ce qui m'a frappé, parce que j'ai fait aussi de la formation de professeur de français, hein, pour essayer de changer les pratiques qui étaient très, comment dire, un petit peu obsolètes, fermées. La France est un pays centralisateur, marqué par une langue qui est une langue de pouvoir, hein, depuis Richelieu. Et donc, il fallait ouvrir toutes ces choses-là. Et ce qui m'a frappé, c'est que souvent, ils avaient du mal à écrire. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas forcément parce qu'on est prof de français que cela donne des pouvoirs pour écrire. Mais enfin...
Disons que ça permet d'employer des jolis mots, ou des jolies tournures. Ou des...
En tout cas, pour mes parents, ou pour ma mère en particulier, c'était une jolie vengeance de l'histoire que les petits soient professeurs.
Et bah oui, c'est sûr. Et vous animez aussi une émission, faut le dire, une fois par mois, avec comme sujet principal la poésie contemporaine.
Oui, cela me tournait depuis très très longtemps et j'ai trouvé en Yves Fougerousse un complice en une radio amie, hein, de Radio Mon País. Et donc tous les premiers mercredis du mois, de 11h à midi, je choisis un poète et nous donnons à lire à deux voix, alternativement, l'œuvre. Parce que ce qui me semble important, c'est que les auditeurs, c'est pour ça qu'on va lire des poèmes.
Ah oui.
C'est pour que les auditeurs entendent dans leur oreille la poésie, fassent leur choix, leur chemin, qu'ils aient des propositions différentes, que le lectorat se forme, qu'il y ait un esprit critique, et voilà. Et puis comme ça, on ne pourra pas avaler les couleuvres de certains gourous. Et voilà. Le langage se forme par cet aller-retour entre les lecteurs et ceux qui écrivent. Et le lecteur recrée, hein, retrouve dans son expérience à lui, des choses qui l'intéressent, qui le branche, comme on dit, mais au sens propre.
D'accord. Et c'est vous qui allez le lire, là, la librairie de Tournefeuille? C'est vous qui allez lire, vous lisez vous-même vos...
Oui, je lis,
Des extraits de votre recueil.
Oui, il y a un spectacle qui est en préparation avec une ancienne principale que j'ai eue au collège, qui est une femme extraordinaire, Françoise Vergne, mais c'est pas au point, mais moi j'aime beaucoup lire, et je trouve que... que quand on a écrit ces textes...
C'est bien de les lire aussi.
Oui, voilà. La voix, c'est important.
D'ailleurs, en plus, vous avez une voix qui porte bien. Vous faites de la radio, donc il n'y a pas de souci. Hein.
Oui, et puis c'est à la voix, c'est en lisant les textes, une fois qu'ils ont été écrits quelque temps après, et à des oreilles, par exemple... complice, que l'on peut savoir si ça tient la route ou si ça ne tient pas la route.
On
se rend compte si ça va ou s'il y a des trous dans le poème ou s'il faut laisser ou s'il faut retravailler.
D'accord. Et vous avez choisi quoi, par exemple, comme...
Alors, j'ai choisi les deux poèmes introductifs, l'un de Buet et l'autre de...
Il faut dire, donc, le recueil se divise en deux. Donc, il y a une partie plus importante qui est Écluse.
Oui.
Une partie un petit peu donc moins importante, c'est Buet. Et vous pouvez nous dire, donc, pourquoi...
C'est des strates d'écriture différentes. Puis depuis 25 ans, j'ai accumulé. J'ai d'autres poèmes. Et donc, c'est deux strates différentes, mais qui se marient bien. Puisque si on voit bien Écluse, Buet... C'est cette idée qui est venue autour de l'eau qui cristallise la vie.
Le temps aussi.
Et le temps.
On retrouve beaucoup le temps. C'est un élément important.
Parce que je suis récemment j'ai écrit un poème qui se termine. Je suis un fruit d'arrière saison qui a failli ne pas voir le jour. Et donc j'ai découvert là et que le temps pour moi était important. C'est-à-dire ma mère était pour l'époque, elle avait plus de 40 ans et c'était la limite quoi pour avoir un enfant.
Maintenant on peut pousser.
Maintenant, oui.
Très loin,
alors,
mais bon.
Voilà le premier de Buet parce qu'il me semble qu'il est bon. Vous verrez. Trêve de parole, vous verrez. Sans les billes de l'enfance, les chemins durcissent. Sans la buée des vitres tremblantes aux carreaux rouges et blancs, l'aquarelle se fige. Sans le verre soufflé des premiers âges, le sable étouffe les pas. La pompe des rêves amorce le réel. Écluse. Péniche de mon enfance, aux senteurs océanes, laisse glisser les miroirs de la mémoire de la vie. Gonds huilés des portes béantes, bouillonnement des obstacles, effervescence, en cataracte blanche l'eau s'engouffre, apaisement, ascension, descente, travail fluide, réglage, règlement, ainsi le verbe ajuste la parole, poursuit la route. Les veines cannelées de l'écluse riment l'existence, des flots rouges pulsent, tentation. Amont, aval, de la matrice chaude au galet froid de la grève, les rivières ne retournent pas. Enchevêtrement d'algues, racines et branches confondues, l'être se canalise, péniches à rabord, les veines cannelées de l'écluse systole.
Ah oui, j'adore ce verbe. Donc, c'est inventé ce verbe ou il existe vraiment systolé ?
Non, c'est un néologisme.
Il est venu comme ça.
Naturellement.
J'ai trouvé qu'il était. En plus, il termine un seul mot, un seul verbe, et vraiment tout est dit.
Parfois, on fait des trouvailles comme ça, et on est content de les avoir faites.
Ce systole, il est vraiment. Il y en a d'autres qui incarnent beaucoup d'autres thèmes aussi. Moi, j'avais bien aimé l'encre. L'encre, les mangeurs de melons de Picasso, parce que vous faites allusion à un moment à un tableau donc du peintre.
Oui.
Il y a beaucoup de...
Ben, je vais vous faire un plaisir, je vais le lire. Alors il faut que je dise deux mots. C'est une histoire réelle. J'ai eu la chance de voir au musée Picasso à Barcelone, avec mon ami, nous avons vu en 93, je crois, une collection des derniers tableaux de Picasso qui appartiennent à un collectionneur privé allemand.
D'accord.
Et avec des traits noirs, avec une économie de moyens étonnante. Quand vous arriviez, il y avait une toile, mais alors j'ai pris un choc, mais vraiment. Hein, et j'ai essayé
de le retranscrire. Ce que vous avez vu, vous avez essayé de l'écrire.
Ouais. Mais vraiment, j'ai pris un choc. J'ai dit... Voilà, toute une vie de travail, il est arrivé un truc extraordinaire.
En tout cas, moi, je l'ai remarqué parce que ça fait partie de ceux que j'ai bien aimé.
Les mangeurs de melons de Picasso, des yeux troules noirs avant d'y retourner, coulée vitale du jus, des babines mordent, la pulpe s'écoule, ô vie, aux instants comme seul présent, trou de mots, de sons, de couleurs, de formes, affamés comme ces mangeurs, pour toujours mort.
Oui, on sent vraiment la vie qui sort du tableau, les couleurs, la vie, même un peu la violence aussi.
Oui, parce que la violence, vous avez dit violence, vous avez bien dit, parce que le poème suivant, le monde et la toile, qui correspond à la même sensation, tant à voir qu'on ne sait. Et ces formes si simples, si lourdes, qu'on chancelle à leur regard. Et vous avez parlé d'encre.
Oui.
Il y a une violence dans l'encre. C'était un moment difficile pour moi dans ma vie. Et je sentais, heureusement, il y avait l'encre qui tapait comme un sang de révolte. De la nuit des caniveaux s'écoule mon encre. Peines et joies tapissent son flot. Arrachés au néant, des témoignages tapent aux tempes. Vie cassée, vie debout, vie voûtée, vie rebelle, vie.
Voilà. En fait, la vie, voilà, c'est un peu toutes ces vies, en fait. Hein. C'est pas une vie, c'est, hein, c'est, y a plusieurs choses dans une vie, et c'est un peu ce que vous écrivez là dans ce poème.
Oui, plusieurs vies, non seulement plusieurs vies, mais « je est un autre », pour reprendre la formule célèbre de Rimbaud. Et ça, c'est très fort, parce que effectivement, quand on écrit, on est en correspondance avec le monde. Et ce qui est extraordinaire, là, vous m'avez renvoyé une image, par exemple, de Picasso que vous avez senti. Ce qui est extraordinaire, c'est que le lecteur recrée le poème. Et dernièrement, dans une émission, justement sur à Radio Mon País, mon complice a retrouvé une sensation de son enfance à partir d'un de mes poèmes. Il me dit, mais alors, tout d'un coup, oui, quand j'ai dit je suis un fruit derrière la saison, lui c'était pareil. Il a connu une histoire absolument dramatique. Son père était dans le maquis du Vercors. Sa mère, les Allemands voulaient la fusiller. Elle avait déjà fait ses prières. Et elle avait laissé l'enfant qui avait quelques mois, dont mon complice actuel, au fond du jardin dans une couverture. Et ça lui est revenu, ça lui est revenu. Et alors la mère a été sauvée parce que ça a été le débarquement de Provence et les Allemands ont fui. Et donc, il a gardé sa main plus longtemps. C'est beau.
Oui. Ça lui a fait un flash comme ça. Ah oui, tout à fait.
Ah, c'est bon.
Oui, mais c'est ça. Je crois que la poésie, ça donne peut-être encore plus que les romans ou que les nouvelles. Enfin, je crois que la poésie, ça donne plus ce flash que les...
Ben oui, parce que
les histoires, en fait.
Parce que c'est un feu de notre expérience.
C'est plus concentré aussi. C'est du concentré à l'état pur.
C'est concentré à l'état pur. Et donc forcément, ça vous interpelle davantage. C'est ça le propre du langage poétique.
Et comme les chansons, des fois, certaines chansons, ceux qui écrivent des chansons, des fois, arrivent à
il y a de très belles choses dans les chansons. La différence entre la chanson et la poésie, c'est que la chanson n'a pas besoin d'avoir un langage si tendu et si concis tout le temps.
Parce qu'il y a la musique. Voilà, tout à fait.
Mais il y a des moments, il y a certaines chansons, il y a des moments de certaines chansons qui sont de la poésie. Mais on ne peut pas dire, Gainsbourg n'est pas un poète. Il a des moments où il écrit, c'est un bon écrivain de chansons, mais...
Il est plus musicien que...
Voilà. Non mais c'est pas... on peut être romancier, on peut être tapissier, je veux dire, je n'introduis pas là une hiérarchie, mais j'essaye de mettre de l'ordre quand même dans un désordre qui a fait beaucoup de mal à la poésie. La poésie c'est un travail sur le langage, voilà, c'est pas faire joli. C'est essayer de dire de façon vitale des choses qui sont à dire et on trouve les mots pour le dire. Voilà.
Est-ce qu'on peut dire que quand on fait de la poésie, on fait un peu comme une sorte de travail sur soi-même, une sorte de psychanalyse, entre guillemets, hein,
Oui, dans le sens où forcément les braises de ce que vous dites viennent de vous. Ben, viennent de vous, de vos expériences, de ce que vous avez vu, de ce que vous avez vécu. Que le voyage est assez court, il faut qu'on en tire.
Mais vous avez envie, on a envie de les sortir. Donc quelque part, on a envie que ça sorte pour justement peut-être mieux les appréhender, mieux les accepter.
Oui. Mieux les accepter, effectivement, c'est une sorte de catharsis. C'est mieux les accepter aussi pour faire part de ce hasard multimillionnaire qu'est notre vie, parce qu'on aurait pu très bien ne pas exister et on est là.
Et toute vie est intéressante, hein, voilà. Je veux dire,
vie est intéressante. C'est ce que dit la poésie aussi. Voilà, c'est un pont avec l'autre. Et donc toute vie est intéressante, bien sûr.
Tout le monde pourrait effectivement écrire, jeter sur le
papier. Contrairement à certains élitismes qui ont été enseignés et qui étaient de faux élitismes et qui étaient dangereux. Moi je reproche parfois à l'école d'avoir fait ça, c'est-à-dire de nous avoir laissé croire pendant longtemps qu'il y avait un certain nombre d'élus qui pouvaient écrire et que les autres non. Et que
ils devaient écouter, voilà. Et juste écouter, voilà. Et c'est
ça,
tout.
Ça c'était, j'ai de la tendresse pour mes maîtres qui m'ont permis de vivre bien dans cette société, mais cette critique elle reste à moi parce que j'ai essayé dans ma vie d'enseignant de faire effectivement le contraire, de montrer tout le monde est capable à condition qu'il veuille, qu'il s'en donne les moyens,
oui,
etc.
Voilà, qu'ils aient envie. Voilà,
tous capables, comme disait le groupement français éducation nouvelle.
Et quels sont justement vos maîtres dont vous parliez là à l'instant en termes de poètes?
En poésie, mais j'ai celui qui m'a mis dans la poésie, et c'est un poète contemporain qui vit à Rabastens, Simon Brest, qui à 20 ans m'a fait voir la poésie d'une autre manière. Et surtout, j'ai perçu que au fond, je pouvais y aller, que c'était pas réservé à une espèce d'élite, quoi. Bon, j'avais aimé Baudelaire, j'avais aimé un certain nombre de poèmes, certains poèmes de Rimbaud, puis d'autres que j'avais fait en classe, mais de là à dire, d'ailleurs, les premiers mots que j'ai écrits, j'étais tellement étonné que pendant 7-8 ans, j'ai pu écrire parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. Et après, j'ai compris que c'était, ils sont revenus. Et souvent, je dis, par exemple, si je vous lis Magie, je suis étonné que les mots arrivent. On lit, on leur dit magie. Vous voulez bien qu'on leur dise magie?
Ah oui.
Comme nos ancêtres attendaient de l'amadou l'étincelle, des mots étonnés d'être là dévorent les feuilles de leur charge. Espace de vie, de pensée, magie matérielle, nommée, c'est peut-être faire arriver. Émotion du mot qui va naître, poids des murs, du temps, de l'espace, tout pèse. D'où cette légèreté qui va étendre sa présence, acharnement de la main à des dessins de lumière, ruissellement à modeler.
Oui, ça coule, c'est...
Oui, mais une fois que c'est sur le papier, ça coule.
Mais parfois, oui, mais enfin, j'imagine que ça vient de loin.
Ça vient de loin. Et puis, c'est surprenant. Parfois, vous trouvez au matin, au réveil. Moi, je suis un homme du réveil. Le matin,
plutôt c'est du matin, pas le soir, pas la.
Non, la nuit. Le matin. D'accord. Quand je suis frais, il y a des mots, des fois, qui vont me travailler la nuit, qui viennent et que rapidement je mets sur une feuille. Alors, parfois. Ça va, ils sont presque dans leur forme. Parfois, il faut aller les chercher, retravailler X et X fois, attendre, reposer la pâte. Enfin, c'est comme le pain.
Un cuisinier, hein, véritable cuisinier, c'est un peu ça.
Oui.
Hein,
Un cuisinier des mots. Comment il disait Guevic? Ah oui, il disait, mais un poème, c'est pas différent du travail du menuisier. Hein. Vous avez le matériel, il faut avoir l'idée du meuble.
Voilà.
Quand vous avez l'idée du meuble, vous le faites. Mais c'est là la difficulté, c'est de trouver l'idée du meuble. Et ça vient pas du jour. Parfois, ça vient pas du jour au lendemain. Et alors, il y a des jours qui sont, on est très content, ça vient facilement, et d'autres pas, mais ça, c'est la vie.
Vous travaillez sur ordinateur ou sur...
Ah non, sur papier. Après, je mets à l'ordinateur.
Sur papier,
Mais les mots, ils viennent sur papier, oui.
Et vous publiez également, donc, dans des revues, des poèmes inédits. Hein,
oui, alors notamment la revue lacanienne Enjeu. Et donc, je les remercie aussi, parce que ça m'a permis d'être plus connu et d'accélérer peut-être des choses, des poèmes que je voyais sans tassé dans mon bureau en me disant, parce que je m'étais dit, tu ne publieras pas à compte d'auteur. Voilà, la seule chose que j'avais dit, ils en veulent pas, on verra plus tard. Et donc j'ai accumulé. Et oui, des derniers poèmes, par exemple...
Et vous en avez un autre de recueil là qui est en lecture, au temps des cerises, hein, un autre recueil de poèmes, Le Temps.
Voilà, alors, vous avez noté particulièrement comment le temps souvent rôde et voilà. Peut-être un poème inédit qui sera dans un jeu.
Oui.
La falaise. L'écume blanche vient comme un courlis buté sur les rochers finissants. Dernier regard frissonnant d'immensité dans ce bleu brûlant comme le vent du désert. La pierre cède dans un fracas vite recouvert. Le vent maintient la toile intense, d'autres pierres s'avancent. Tableau de nos vies.
Donc ça, c'en est un inédit que vous avez...
Que j'ai écrit récemment, là, il y a
Vous allez le publier dans une revue
dans un jeu lacanien.
Ah, voilà. D'accord. Et donc, on rappelle, donc mercredi prochain, 22 mars, à 20h30, à la librairie À Juste Titre, 65 rue Gaston
Doumergue,
à Tournefeuille. Donc, vous présentez le livre dont vous venez, le recueil de poésie dont vous venez de lire des extraits. Donc, on vous y rencontrera. Et puis, vous reviendrez nous voir quand Temps sera sorti pour nous lire d'autres passages avec votre voix qui s'y prête bien, je trouve.
Ah ben, absolument.
Et pour nous parler encore donc du langage, de la poésie qui n'est peut-être pas assez des fois reconnue et connue et qui mérite vraiment.
Je viendrai avec un grand plaisir.
Eh ben, merci beaucoup, Progresso. Et puis moi, je vous dis donc à la semaine prochaine. Adiciats à tous.